Bonjour, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage de France Inter, en direct du studio 611.
Au sommaire aujourd'hui, comme un bruit qui court dans les cités, côté pile et côté face, entre Bagnolet et Marseille, avec cette semaine Pascal Pascariello.
Comme un bruit qui court est réalisé cette semaine par Joseph Caraballona, assisté de Karen Day, avec à la technique aujourd'hui Kevin Pelot et David Federman.
Vous pouvez rentrer madame si vous voulez, hein. Quand la porte elle est ouverte, c'est ouvert à tout le monde.
C'est exactement l'idéal de la ville, quoi. J'ai toujours rêvé de voir ça.
Elle est là, la police, pour casser les pieds aux gens qui travaillent. Les gens qui font les crapules, on les laisse normal.
Parce que moi, s'il faut voler pour mes enfants, je vole. Hein. Je l'ai fait et j'ai pas honte.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux, les bruits qui courent ?
Deux éclairages sur un même dossier au programme ce samedi. Deux lieux, deux facettes d'une même réalité de béton que beaucoup aimeraient pourtant ramener à une seule et même étiquette. La cité, les quartiers, la banlieue. Or, entre Marseille et Bagnolet, comme un bruit qui court, vous fait entendre l'exception et la règle. L'exception d'abord. Le salon de l'agriculture a commencé, vous avez eu droit au sujet sur la plus grande ferme du monde. Eh bien nous, on va dans une toute petite ferme, une pas à la campagne au plus, au milieu des immeubles de Bagnolet où Antoine Chao nous emmène dans une bergerie au bord du périphérique parisien. Parce que pour la règle, les sujets sur les cités, c'est plutôt surenchère de violence, surenchère de clichés, tout ce qu'il faut pour entretenir les préjugés. Parce qu'ici, la règle, c'est la loi du silence dans le quartier nord de Marseille où nous emmène Pascal Pascariello. Alors elle va nous faire entendre une voix en langueur, une voix d'une mère atteinte dans sa chair par les réseaux qui lui ont pris un fils maintenant derrière les barreaux. Dans ces quartiers, la sécurité, le cordon sanitaire tient les habitants à l'écart de la cité des citoyens. Ce qui permet de renforcer le crime organisé, qui renforce son emprise sur les plus faibles et les plus vulnérables. Et tous les autres n'ont qu'à se taire. Alors, dans la cité où les murs ont des oreilles, comme un bruit qui court, une heure de reportage à feu et à son.
Antoine Chao.
Pascal Pascariello.
Qui manque-t-il ? Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Des chèvres, des poules.
Des poules, des manteaux qui les promènent. Et puis on vient regarder, les enfants sont contents.
Merci à eux.
Vous pouvez rentrer madame si vous voulez. Hein. Quand la porte elle est ouverte, c'est ouvert à tout le monde.
Allez, pousse, pousse.
Elle en est. C'est poétique. Ça m'est venu. C'est ça que j'ai tout de suite repéré ici. Quelque chose de poétique et d'utopique et qui est là.
Bagnolet.
Donc c'est bien.
Une ville aux portes de Paris. Un territoire de taille moyenne, densément peuplé. Au nord, les Malassis. Quartier d'habitat social collectif. Zone urbaine sensible, composée de 5 îlots.
Ouais gros. Mais c'est juste là, dans la rue Romain-Lefer, avant le passage là, de la pharmacie. Là. Je présente la chevrette et la brebis de Bagnolet.
Et il y a de l'herbe. Pourquoi vous êtes venu ici pour de l'herbe ou pas ?
Pour les brebis, parce que voilà, l'herbe elle est verte.
Est-ce que vous voulez manger de l'herbe comme elle est verte ?
C'est pas moi qui mange l'herbe.
Je sais, c'est les moutons.
Des brebis, des poules, du béton, de l'herbe et du social. Il suffit de prendre le bus 76 devant l'hôtel de ville de Paris et de descendre 25 arrêts plus loin. Arrêt les Malassis, à Bagnolet. On est en Seine-Saint-Denis. Et juste en face de l'arrêt de bus, surprise. Qu'est-ce qui se passe donc là ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ce bazar, diront certains. Peut-être un laboratoire urbain de travail social et paysan, bien précieux par les temps qui courent.
Vous pouvez rentrer, madame, si vous voulez. Hein. Quand la porte elle est ouverte, c'est ouvert à tout le monde.
La bergerie des Malassis. Association Sort de Terre. Alors on est à Bagnolet et au coin d'un laboratoire de biologie médicale et de la cité Les Malassis, il y a ce petit coin de campagne coloré, bigarré, avec une cabane en bois au milieu.
Allez-y, hein, promenez-vous où vous voulez.
Marqué la bergeria. Pour notre jardin bazar, nous récupérons toutes sortes d'objets en plastique de couleur. Passoire, entonnoir, gobelet, presse-citron, assiette, merci, point d'exclamation. Voilà, parce que c'est tout décoré, il y a une petite barrière.
décorée de morceaux de plastique, colorée des bouchons de bouteilles de lait, etc. Ouvert à tous du lundi au vendredi, de 16h30 à 18h et les samedis après-midi. Ben voilà. Il y a des petits bancs, il y a un petit coin de verdure, il y a des plantations, un petit potager, des troncs d'arbres et de la musique.
Donc on est entouré de bâtiments, de la rue, d'un arrêt de bus juste en face, et de chèvres, de brebis,
Tu veux bien te présenter ?
Ouais, je m'appelle Gilles Lamar, et je suis le responsable de l'association Sort de Terre, qui gère notamment la bergerie des Malassis, un lieu associatif. C'est là où les gamins peuvent jouer avec leurs parents ou pas. C'est là qu'il y a des fois des petits concerts, des projections. Au fond, il y a un jardin pédagogique où on fait des ateliers. Et donc, tu as le troupeau qui est là. Là, on est en hiver, donc c'est février, ils sont encore au foin, les bêtes. Bon, il y a la bergerie qui est le bâtiment pour les bêtes et qui, de mars à octobre, qui mangent dehors, quoi. C'est-à-dire que c'est pas des bêtes type ferme pédagogique, tu vois, qui sont nourries qu'au foin, juste avec un espace pour dégourdir les jambes. C'est vraiment des bêtes qui bouffent dehors sur les pelouses du quartier, au pied des immeubles, sur des friches, dans des parcs, et ça, de Bagnolet, en passant par le 20e, à Paris, à Montreuil et à Romainville. Voilà. Et ce lieu, il a 3 ans et demi. L'assaut, elle a 6 ans et demi, et ça a commencé par un jardin au pied d'un immeuble, de l'autre côté de la rue, quoi. Voilà.
Mais vous êtes d'ici ou vous êtes de Bagnolet, vous ?
Non, je suis pas de Bagnolet, mais je suis pas très loin, quoi. Je suis né à Livry-Gargan. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Et puis j'avais fait, il y a pas mal de temps, une formation agricole où j'avais été apprenti dans l'élevage et chevrier-berger dans les Pyrénées. Mais pas très longtemps, quoi. Ça a été 3 ans de ma vie.
Ce terrain, il appartient à qui ?
Ce terrain, c'est un terrain de la ville. Mais en fait, c'est un terrain qu'on a pris, quoi. En fait, de l'autre côté, là, c'est une école maternelle. Là, les bêtes, là, les moutons que tu vois, les chèvres que tu vois dehors, elles sont dans l'école maternelle. Parce que l'asso, si tu veux, ça fait 6 ans et demi qu'on est à Bagnolet, on n'a aucune convention signée. On n'a aucun papier, quoi, qui dit qu'on est légal à être là, quoi. Donc si on est officiel, c'est grâce aux habitants, quoi. C'est parce que vraiment, on fait partie du quartier et que ça fait longtemps qu'ils voient ma tronche tous les jours, quoi. Et que bon, on a confiance les uns en les autres, quoi. Et donc en fait, c'est un terrain municipal qu'on a ouvert parce que malgré tout, quand on a eu les premières bêtes, c'était en juin 2011, il y avait 2 brebis, 1 chèvre. En fait, on connaissait bien la directrice de l'école parce qu'on faisait des ateliers de jardinage avec ses classes. Et on savait pas trop où foutre les bêtes parce qu'au jardin, c'était pas possible parce qu'elles allaient tout bouffer, quoi. Et elle nous a dit OK pour juillet-août, mettre les bêtes là. Puis en fait, on a ouvert ce terrain qui était fermé depuis 2 ans et demi et qui servait plus à rien, quoi.
Et donc là, les gamins, ils viennent, les gamins des alentours, ils se sont... Ça y est, ça fait partie de leur terrain de jeu, c'est ça ?
Ouais, exactement, ouais. Ça fait partie des terrains de jeu, ça fait partie de... C'est aussi un endroit où si tu veux être peinard, tu peux te retrouver peinard, quoi, parce qu'il n'y a pas toujours du monde. Et en fait, c'est ouvert, on n'a jamais fait d'adhésion, quoi. Parce que depuis à l'époque du jardin, le jardin ça fonctionnait pareil. Hein. Il n'y avait pas d'adhérent, pas d'adhésion, parce qu'en fait le côté jardin partagé, où il faut adhérer pour avoir soit une parcelle, soit avoir le droit de faire ceci, cela... En fait, c'était hors de question parce que nous, justement, on voulait bosser avec les jeunes et les enfants qui traînaient un peu, ceux qui n'étaient pas toujours désirables, quoi, on va dire ça comme ça. Et donc, il fallait pas qu'il y ait de règlement, donc pas d'adhésion, pas de règlement, et on s'arrange, quoi. Et donc, ils viennent par période. C'est comme nous, on a eu des périodes, quoi. Une période vélo, une période roller, ils ont leur période bergerie, tu les vois souvent pendant 6 mois, puis après, tu les revois pas, enfin bon.
Et là, c'est des vacances en ce moment, en tout cas ici, à Paris. Donc j'imagine que la plupart, enfin beaucoup de gamins là, des cités autour, ils partent pas au ski. Hein. Et donc ils viennent ici, ça leur permet aussi d'aller de sortir un peu non, du béton.
Ouais, c'est clair. Ouais. Il y en a qui viennent aussi parce qu'on se connaît. Quoi. Il y en a, moi je suis content de les... qui viennent parce que je les connais et que j'aime bien avoir de leurs nouvelles. Eux c'est pareil, quoi, c'est réciproque.
Oh Sarah. Ah bah voilà, il y a Sarah.
Alors Sarah, toi tu viens souvent ici ?
Oui, je viens souvent avec Gilles, le directeur.
Et qu'est-ce que tu viens faire ici alors ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je nourris les animaux avec Gilles. Je regarde les animaux, je les caresse, je fais plein de trucs avec eux.
Et toi tu habites le quartier ici à Bagnolet alors ?
Oui, j'habite juste à côté. C'est cool qu'il y a une bergerie juste à côté, comme ça je peux voir les animaux.
Parce que c'est quand même assez rare qu'il y ait des bergeries comme ça en pleine ville.
Oui, j'étais impressionnée quand je suis venue. Moi qui adore des animaux, j'ai vu plein d'animaux que j'aime bien.
Tu vas faire quoi aujourd'hui?
Je vais rester avec Gilles, je vais donner à manger aux chèvres, aux moutons.
Comment elle s'appelle celle-là, là, cette chèvre?
Celle-là, il y en a une qui s'appelle Safar, une qui s'appelle Achour. Le mâle s'appelle Pollux. Il y a une autre dehors qui a des longs poils noirs qui s'appelle Luna. Il y en a une marron qui s'appelle Heidi. Et les autres, ils n'ont pas de nom.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Je vais être vétérinaire, m'occuper des animaux en tout cas, parce que j'adore les animaux.
Elles se plaisent alors, les bêtes, ici?
Ouais. Parce que, comment dire ça? Déjà, bon, la chèvre, c'est assez sociable, donc elles sont servies, quoi, tu vois, elles voient du monde. Après, elles ont une belle petite maison. Et puis surtout, comme je te disais, quoi, c'est des bêtes qui sortent, qui mangent dehors. Donc on fait du parcours. Donc elles mangent une grande variété de plantes, quoi, y compris exotiques, vu que nos plantes ornementales elles viennent de très loin. Donc elles ont une assiette très variée. Et les chèvres, c'est ce qu'il faut, quoi. Faut vraiment une alimentation diversifiée. Ça veut dire aussi bien toutes les herbacées, donc tu vas trouver au sol, mais aussi tout ce qui est haies, arbres. Et vu qu'on va dans des lieux assez différents, elles ont vraiment une alimentation qui est équilibrée, qui est riche. Bon, je peux pas parler à leur place réellement, mais non, mais on n'a pas sur le troupeau, on n'a pas de problème sanitaire, on n'a jamais eu de gros pépins de santé, donc ça veut dire qu'il y a un bon équilibre.
Alors le troupeau, ça veut dire que vous avez combien de bêtes?
Il y en a 15 pour l'instant, mais il va y en avoir plus là parce que toutes les chèvres elles sont pleines. Il y a 6 chèvres, un bouc, 7 brebis, un agneau. Et donc bientôt des naissances chez les chèvres.
Ah, y a un petit bras zéro quand même parce que ouais c'est l'hiver quoi. Hein.
Hop, ouais, on fait toujours du feu. Parce qu'en fait l'assaut, tu vois, ici Bagnolet c'est la maison. Mais en fait on travaille aussi à l'extérieur de Bagnolet quoi. Aussi bien donc sur des projets type ce qu'ils appellent politique de la ville, que sur des contrats d'entretien dans des parcs ou même carrément avec des copropriétés. Tu vois, là, on a un contrat avec une grande copro de Bobigny d'un hectare. Et en fait, l'animal, il fait partie de la gestion qu'on propose, quoi. Donc, il y a des endroits où on fait pâturer les animaux. Il y a d'autres endroits, c'est nous qui taffons, élagage, tonte, s'il faut. Ah, lui, il est casse-couille, par contre. Ah, lui, Pollux.
C'est un bouc.
Ouais. Et du pédagogique à l'insertion professionnelle, parce que le but après c'est de former des jeunes du quartier. Là on n'en est pas loin. De former des jeunes du quartier pour qu'ils bossent avec nous. Dans le 20e, a priori, ils sont chauds pour créer une bergerie là-bas. Donc le but c'est essaimer et former des jeunes pour qu'ils bossent dans les nouvelles bergeries. Parce que si tu veux, une bergerie c'est quoi en fait? C'est une petite unité d'élevage en ville. Donc de la création d'emplois via la gestion d'espaces verts et via aussi une production, parce qu'ici on va faire du fromage de chèvre, et donc la personne qui va traire, qui va transformer le fromage et qui va le commercialiser, on crée un emploi avec ça. Donc tu vois, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et puis après c'est aussi un lieu culturel, quoi. Puis c'est un lieu un peu en décalage avec la ville, donc tout décalage est bon à prendre, enfin mon point de vue. Enfin, nous déjà notre travail c'est un travail de déconstruction de tous ces trucs là, lien social, cohésion sociale, agriculture urbaine, vivre ensemble, tout ce bordel là. Notre boulot, c'est on déconstruit ça et on repart du réel pour proposer nos propres trucs, quoi. Vous pouvez rentrer, madame, si vous voulez. Hein. Quand la porte elle est ouverte, c'est ouvert à tout le monde.
C'est exactement l'idéal de la ville, quoi, pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours rêvé de voir ça. Et c'est très rare, en fait.
De voir un endroit comme
de
ça,
voir un
peu
ouvert. Ouvert, mais surtout, on redonne... sa place à la nature.
Allez, pousse. Elle a un œuf.
Elle a pondu un œuf?
Oui, il est là. Il est dans son petit nid. Bon, on va les laisser, je crois.
Oula, attention, je ne vais pas le casser. Oh, elle le protège, son œuf. Hein.
Mais elle ne les couve pas, alors ça sert à rien.
Elle ne les couve pas?
Non.
Alors qu'est-ce qu'elle fait?
Je sais pas, elle le garde.
Vas-y, là, tu peux l'attraper.
Voilà. Il est tout chaud. Il vient de le pondre. Wow. Tout chaud. Je vais mettre dans la boîte pour les vendre.
Abdella, Juba, Eddy. Ouais. C'est ça, hein? Enzo.
Alors?
Lui, la caméra.
C'est les vacances?
Ouais.
Ah, vous faites quoi pour les vacances?
Bah, on fait rien, on joue au foot. Et à la play.
Sans commentaire.
Toi, tu fais ta bouche là, t'es toujours en train de l'ouvrir.
On va passer le bonjour à Gilles, bien sûr. C'est tout, hein.
Vous partez pas en vacances?
Non. Si, on va à Dubaï, bientôt.
Tu vas à Dubaï?
Ouais.
Quoi faire?
En vacances, pourquoi?
Si, ouais. Il va à Alger, ouais.
Faire du ski, là-bas?
Ouais. Je sais même pas, ça se situe où, Dubaï?
Si, en Algérie.
Et vous habitez le quartier?
Félix Plateau Zéder, Bagnolet.
Vous venez des fois ici voir les bêtes?
Non. Oui, on passe souvent. Moi, je passe souvent.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Très très bien. Intéressant quand même. À Bagnolet, il n'y a pas beaucoup de trucs comme ça là.
Il y en a tellement.
C'est où le bled?
En Algérie.
Bon match.
L'idée c'est quoi? Mais c'est un projet qui est à la fois poétique, on va dire. À la base, c'était quand même beaucoup ça, quoi. C'était l'idée de créer un décalage, un travail sur le regard, un travail nous, l'asso. Enfin, c'est, on aurait pu aller dans un parc pour faire ça. On nous l'avait proposé, mais on a dit non, quoi. Nous, on reste au pied des immeubles parce que le but c'était vraiment d'être au pied des immeubles et d'être dans ce quartier qui est à l'image de plein d'autres quartiers, donc de logements, de grands ensembles, quoi. Où il y a deux choses. Bon, déjà, quand on a tendance généralement à parler de façon assez négative, voire péjorative. Et c'est aussi les quartiers où, malgré tout ce qu'on entend aussi, et malgré les lignes directrices de ce qu'on appelle la politique de la ville, c'est les quartiers aussi où on se connaît le mieux, quoi. Une cité, c'est un village, quoi. Et donc, quelque part, il y avait tous les ingrédients pour développer un projet agricole, entre guillemets, mais surtout social, en ville, quoi. Ça veut dire l'agriculture. Des fois, quand on parle d'agriculture urbaine, on réduit le truc à de l'innovation économique ou à de l'innovation technique, quoi. Alors que je pense que ce qui est le plus précieux aujourd'hui, c'est l'innovation sociale. Aujourd'hui, si tu veux, ce qui a permis l'installation du troupeau, bon, bien sûr, il faut un gus derrière pour s'en occuper, qui a envie de porter ce truc-là, tout ça, machin. Mais il faut aussi des conditions qui sont indépendantes du projet, c'est-à-dire des budgets des services espaces verts qui ont fondu de moitié, beaucoup moins d'argent pour les collectivités, des quartiers délaissés, et donc dans ces quartiers, des espaces verts qui sont plus entretenus, qui sont plus tondus, qui sont plus plantés, tout ça, machin, sentiment d'abandon. Et donc là, il y a de la place pour de la biquette et pour quelqu'un qui va les faire pâturer. Et puis, rénovation urbaine, il y a des bâtiments qui sont détruits, il y a des grandes friches qui se créent, boum, encore de nouveaux pâturages. Mais ce projet, on est dans une espèce de fenêtre, de brèche économique, sociale, environnementale, urbaine. Ça se trouve, dans 3 ans, il n'y a plus de bergerie à Bagnolet, parce que on sera passé à une nouvelle étape de construction de la ville, que les espaces verts qu'on pâture aujourd'hui auront soit disparu, parce que densification toujours, soit auront été résidentialisés. Tu sais, la résidentialisation, c'est la panacée. Ça veut dire, les bâtiments, on les entoure de grilles, on met des parkings au pied, et puis du coup, on a des espaces verts qui ont l'air plus chiadés sur le coup, mais surtout qui deviennent inaccessibles, y compris aux habitants, la plupart du temps. Donc forcément, inaccessibles pour moi et les animaux. Tout ça, c'est plein de paradoxes. Parce que finalement, ce qui rend possible le projet, c'est absolument pas ce qui est censé le soutenir. Et ce qui est censé améliorer le quartier, et par nous, et par beaucoup d'habitants, c'est vécu comme quelque chose qui va au contraire le dégrader. Donc on est au milieu de toutes ces problématiques-là. Des politiques publiques que je trouve qui sont complètement à côté de la plaque, à l'heure où des problèmes deviennent de plus en plus prégnants, et que ça fait 30 ans qu'on le voit, qu'on en parle, et qu'il y a plein de gens qui font des super trucs, et que c'est pas ça qu'on encourage, quoi. Et on continue à nous mettre des bâtons dans les roues, alors que ça marche, et qu'on prouve que ça marche. Tu vas voir, il y a des prés au pied des immeubles, tu mets un pré au pied des immeubles, nous on fait l'entretien autour, et tout le monde est content. Et dans le quartier, ce qui vient de nous, les gens sont preneurs, parce qu'ils ont vu le truc commencer, tu vois. C'était 2 parcelles de jardinage au départ, après c'est devenu un grand jardin, après on a jardiné à d'autres endroits, après il y a eu 2 brebis, 1 chèvre, maintenant il y en a 15, il y a eu la bergerie, enfin tu vois, c'est toute une histoire. Là, on est à plus 6 ans et demi de l'histoire qu'on a dans le quartier.
Au Malassis, ouais.
Existe, et moi ça fait 7 ans et demi, parce que je te dis, pendant un an, j'avais fait un jardin avant sans qu'il y ait l'asso, quoi. C'est le cheminement d'un mec qui est né, comme je t'ai dit, à Livry-Gargan, qui a grandi avec la culture hip-hop, le rap français, donc la fac, la socio, qui ressemblait étonnamment au rap français, quoi, donc envie de fouiller, et puis après envie de partir de France, et voyage, et puis malgré tout, toujours à la banlieue dans la tête, quoi.
Quelle chance d'habiter la France, dommage que tant de gens fassent preuve d'incompétence.
Dans l'insouciance générale, les fléaux s'installent normal.
Dans mon quartier, la violence devient un acte trop banal. Toi qui commandant au lieu, mon appel est sérieux. On ne prend pas ça comme un jeu car les jeunes changent.
Voilà ce qui dérange.
Ceux qui sont restés passifs en attendant que ça s'arrange.
Voilà, c'était la bergerie des Malassis. Merci à Gilles Amar. C'est son vrai nom, son vrai blaze. Mais beaucoup aux Malassis l'appellent Petit Pois. Ça, c'est son nom de super-héros. Petit Pois, le super-héros des espaces verts. Ça jette. Et la semaine prochaine, dans la famille des super-héros, on ira à Mexico, pays des super-héros sociaux, des lutteurs masqués, des lutteurs sociaux masqués pour retrouver Super Barrio et Super Piéton Peatonito. Mais tout de suite, avec Pascal Pascariello, on file à Marseille, dans les quartiers nord.
Il y a des actes intolérables à Marseille ou dans d'autres cités. Nous avons mis des moyens à la disposition de la police et de la justice pour casser ces ghettos et pour combattre le crime, les réseaux et les trafics de drogue.
216 armes, une tonne 8 de cannabis, 102 kg de cocaïne et près de 6 millions d'euros d'avoirs criminels. La délinquance, les trafics ne sont pas une fatalité.
Le 9 février dernier, Manuel Valls se déplaçait à Marseille, le matin même des tirs de Kalachnikov retentissaient dans la cité de la Castellane, dans les quartiers nord, enclavés du reste de la ville. La Castellane est l'un des quartiers les plus touchés par le trafic de drogue qui réalise son plus gros chiffre d'affaires. Contrairement à ce qui a été donné comme information, loin d'être une provocation adressée au Premier ministre, ces tirs ont été lancés par des jeunes cagoulés appartenant à un réseau de drogue pour faire peur aux concurrents. Depuis quelques mois, la cité en proie à une guerre de territoire. Et au milieu, près de 7000 habitants tentent d'y vivre. Le taux de chômage dans la cité, le taux de chômage des moins de 25 ans avoisine les 40%. Incendies dans les écoles, intimidations, tirs d'armes, c'est presque un quotidien. Les habitants sont isolés, abandonnés par les pouvoirs publics. Il a donc fallu l'arrivée de Manuel Valls pour s'intéresser à leur sort. Mais la seule réponse donnée, des CRS. Nous partons donc à Marseille, dans la cité de la Castellane, avec Karim, ancien gérant de réseau drogue, aujourd'hui sorti du trafic, qui a grandi à la Bricarde, cité voisine.
Moi, j'ai grandi dans cette cité, dans la Bricarde. J'ai 35 ans, j'ai 3 enfants.
Là, on est passé devant
un... Dans l'entrée de la cité, il y a les CRS qui contrôlent les habitants, mais il y a tout le temps le réseau. Qui tourne.
Le réseau de drogue, là.
Le réseau de drogue, voilà, qu'on vient de passer devant. Un des réseaux, il y en a plusieurs dans la cité. C'est voilà, juste en face de nous, il y a un réseau. Un grand baril, là, pour faire le feu le soir, la chaise. Et il y a au moins 1, 2, 3, 5 clients autour du dealer. Là, il y en a un peu plus loin, 100 mètres, un autre. Mais bon, là, il n'y a pas de clients pour l'instant. Et ils ne se font pas contrôler, normal, ils sont en train de faire leur business. Et c'est dangereux en plus. Tu peux te prendre une balle perdue pour n'importe quoi, pour un regard, pour... C'est devenu dangereux, vraiment, vraiment dangereux dans les cités.
Alors justement, on est en face...
En face de la cité de la Castellane, où s'est déroulé ce drame le jour de la visite du Premier ministre Manuel Valls. Et en fait, ces tirs-là, c'est pour un territoire. C'est aucun rapport avec ce qu'on entend dire d'informations pour provoquer le Premier ministre. C'est vraiment rien à voir.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en ce moment ?
Il y a deux réseaux de drogue. Et l'autre veut prendre un des plus importants réseaux de la cité.
Qui se trouve dans la tour.
Dans la tour.
On la voit, cette tour-là, non ?
Oui, c'est cette tour qu'on voit, c'est ça. La Castellane. 50 000 euros par jour.
50 000 euros de chiffre d'affaires par jour.
Voilà, sans compter les réseaux qu'il y a autour.
Et là, on vient de croiser justement des mamans qui sortaient d'une école qui ne voulaient pas nous parler parce qu'elles avaient peur des représailles des réseaux de drogue.
Elles ont peur d'avoir des représailles par rapport aux jeunes qui font le bordel. On est devant la cité de la Castellane, il y a plein de CRS. On y va, on traverse. On va voir les CRS s'ils nous refoulent pas.
Bonjour. Vous devez... Il y a pas mal de CRS, mais vous êtes à l'entrée de la cité de la Castellane, c'est ça ?
Moi, je peux pas vous parler. C'est-à-dire,
moi, je suis habitant de la cité.
Non, je suis d'accord, mais ce que je veux vous dire, c'est que je peux pas vous dire ce qu'on peut.
Non, non. Si j'ai une question, mais c'est pas de vous dire renseignement. Voilà. C'est comment ça se fait que vous êtes dans des entrées de cité et le réseau il continue à tourner.
D'accord. Donc, si vous voulez une réponse à tout ça, par rapport à l'organisation, etc., j'appelle mon officier. Et il sera à même de vous répondre, monsieur.
Nous attendrons donc la réponse de l'officier. Lancée depuis décembre 2012 par Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, l'opération Approche Globale n'a de global que le nom. Cette énième mesure sécuritaire n'a pas amélioré le quotidien des habitants et elle n'a d'ailleurs en rien perturbé celui des réseaux de drogue. Alors que les CRS encerclent la Castellane, nous entrons avec Karim à l'intérieur de la cité, un supermarché de la drogue à ciel ouvert. Et pour cela, nous avons dû passer en micro caché.
Elle est là, la police, pour casser les pieds aux gens qui travaillent, qui rentrent chez eux, qui vont voir leurs parents, et on contrôle les zones à citoyens. Et les gens qui font les crapules, on les laisse normal. Rouler sans casque, devant eux, ça cabre, ça crie « Aha !» Et on leur fait rien, le réseau, il tourne.
Voilà, là, on voit les dealers un peu de partout, assis sur les chaises.
On va des guetteurs.
Non, lui, c'est un dealer de réseau. Là, on a des gitans qui vendent la coque.
Ils vendent de la cocaïne, là, voilà. Devant le bâtiment où on vient de passer. Ils étaient assis sur deux chaises.
Et c'est l'heure de manger, en plus, ils sont en train de manger, sandwich et tout. Il y a un dealer avec un canapé. Il est peinard, lui, il ne manque plus que la télé.
Il était tranquille, assis sur un canapé.
Il y a encore un autre, là, 100 mètres plus loin.
C'est un vrai labyrinthe. On passe entre toutes les petites rues, entre les immeubles, pour rejoindre le point de vente.
Bonjour.
Bonjour. Je vais te dire, c'est la queue de plat de 100 grammes que tu as.
Du bois normal.
À combien là, c'est là
300.
À 300 Bon, je peux l'avoir un peu. Ouais.
Du bois normal, hein.
Il est fumable, ça va. Donne-nous ton opinion, le dealer.
C'est lequel que vous avez fait le plus gros. Mais c'est un luxe hein, de pouvoir choisir.
Allez, ciao, go.
Au revoir.
Tu peux prendre la fenêtre.
Mito, tu parles à des gueules.
Ouais,
ouais. Viens, go. Viens, viens. Tu coupes du réseau d'en bas ou quoi?
Non.
Ça y est, t'as fini?
Oui, ouais, ouais.
T'as fini ou t'es un peu?
Je suis assez calme.
On a croisé quelqu'un que vous connaissez. Et là, il fait quoi? Il va lui aussi acheter. Il va acheter.
Lui, c'est un dealer du réseau d'en bas. Mais dans chaque réseau, c'est pas le même shit, ça dépend. Il y en a qui est plus bon que l'autre et voilà.
Donc lui, il vend dans l'autre réseau, mais il vient acheter pour sa consommation personnelle.
Pour sa consommation personnelle.
Ici.
Ici, voilà.
Au revoir. Merci beaucoup. Allez, ciao.
Au revoir.
Voilà, on retourne.
Allez, hein, on va retourner. C'est plutôt l'heure d'aller récupérer mon fils.
Chiche, chichon, coque, cocaïne, herbe, bœuf, bref, peu importe l'expression, rien ne change. Si facile d'aller pécho, comme on dit, d'aller acheter de la drogue. Et dans la file d'attente, on croise des jeunes des quartiers sud de Marseille, propres sur eux, fils de bonne famille. Tant qu'il y a de la demande, il y a de l'offre, c'est ça le commerce. Et en sortant de la cité de la Castellane, nous rencontrons à son poste, devant son fourgon, le chef de la patrouille des CRS. Karim l'interpelle.
Je pense qu'il y a leur chef qui arrive en haut, il est en train de descendre pour venir nous voir.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, dites-moi.
Allez, contrôler les dealers qui sont en train de dealer, que vous êtes en train de devant les cités.
Moi, je vous donne une réponse technique. Ce qu'on fait, c'est qu'on ceinture dans la globalité la cité, d'accord. On ne peut pas revenir non plus sur des années de laisser aller sur la cité, d'accord. Parce que pendant des années, on n'a rien fait. Et on apporte une réponse globale liée à la commande du politique. Quand on répond par la police, c'est un moyen sécuritaire. C'est que le problème est déjà entamé, d'accord. Moi, j'apporte une réponse à lutter contre le sentiment de sécurité. Hein.
Non,
c'est
non, mais...
pas plus compliqué. Hein.
C'est pareil, on va sur Sarkozy, c'était opération coup de poing.
Est-ce que c'est normal, monsieur, que vous ayez des éléments de la cité sur un toit et des Kalachnikovs qui tirent à la Kalachnikov?
C'est pas normal, monsieur, je demande qu'on réagisse que ça. D'accord. Vous y prenez de la mauvaise manière, monsieur.
Mais écoutez, monsieur, vous avez qu'à répondre de manière écrite aux politiques qui donnent l'instruction de mettre en place ce genre de dispositif. Moi, je ne fais qu'appliquer la politique qui est mise en place, monsieur. Si vous faites contrôler plusieurs fois en journée, encore une fois, si vous êtes en règle, je peux vous garantir que si on est en règle, on s'en fout complètement de se faire contrôler. D'accord ? Non, mais l'ego, il faut le mettre de côté à un moment donné. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'est normal qu'on retrouve...
Monsieur, est-ce que c'est normal qu'on nous oublie comme ça, hein ? Qu'on nous laisse dans la merde ?
Par rapport à quoi ?
Hein ? Par rapport à quoi ?
Par rapport à
quoi ? Il n'y a rien, monsieur, dans les cités. Voilà, vous faites ça.
Je suis pas politique.
Oui, ben ouais, c'est pour ça. Ah ben moi, je vous explique. Vous me dites, vous me donnez une réponse. Je vous la donne la réponse. Il n'y a rien, monsieur.
Si, si, il y a l'école républicaine.
Arrêtez, monsieur.
Il y a la possibilité, monsieur, de.
Il y a rien, monsieur,
de trouver un travail.
Moi, je vous dis qu'il n'y a rien, monsieur.
Le travail n'est pas facile, monsieur.
On est seul à nous-mêmes. Vous voulez faire quoi, monsieur?
C'est plus difficile que d'autres. Moi, je vous invite à, si vous pouvez, sortir de cette cité et à aller habiter dans un endroit un peu plus, je dirais, tranquille. Parce que si vous voulez mon sentiment personnel, moi je raserais ce genre d'immeuble.
Eh oui, l'ego, il faut le mettre de côté. Détruire les bâtiments, ce policier a peut-être oublié les habitants qui y vivent. C'est d'ailleurs ce que fait l'État quotidiennement. Casser les ghettos, miser sur l'éducation, autant de paroles auxquelles on ne prête plus attention dans les quartiers nord. Et pour cause, lorsqu'on se rend à l'école de la Castellane, difficile de penser que le gouvernement se préoccupe encore de l'enseignement. Cette école qui a subi en quelques mois seulement un incendie, un vol, est loin d'être un bâtiment coloré et accueillant pour les élèves. Mercredi dernier, et à l'approche des élections départementales, une élue venait rencontrer les parents d'élèves. Je me suis invitée à cette réunion.
J'explique aux journalistes qui sont là qu'aujourd'hui, je suis là pour une chose. Arlette Fructus, adjointe au maire, en charge de la rénovation urbaine de la politique de la ville. C'est pour montrer que je tenais mes engagements. Suite aux difficultés qui s'est passées à l'école de la Castellane, j'avais fait une réunion pour voir ce que les parents attendent, la mise en place de bancs, la réfection d'un petit muret. Enfin, ouais.
J'ai l'impression que les habitants n'arrivent plus vraiment à croire aux politiques parce que ça fait régulièrement que vous venez dans les quartiers et rien ne change vraiment.
Oui.
Il faut pas dire ça, pour une fois on en a une qui vient.
Vous n'avez pas l'air d'accord.
Regardez le dortoir de maternelle, la femme de ménage, deux mois elle n'est pas venue au primaire. C'est les maîtresses qui font le ménage, vous trouvez ça normal? Les toilettes cassées, il n'y a pas de chauffage. Les enfants sont obligés de rester avec leur veste dans les classes.
Quel âge ont vos enfants?
Ah ben, il a 10 ans mon fils, et j'ai un qui a 6 ans.
Mon point de vue c'est de la poudre aux yeux, mais après bon.
Ça fait combien de temps que vous habitez là?
Ça fait 17 ans que je suis là. J'ai un enfant qui va ici à l'école et j'ai les mêmes inquiétudes que tous les parents ici. Enfin, les inquiétudes que j'ai, c'est plutôt au niveau de l'école qui manque sérieusement de moyens et de sécurité, on va dire. Depuis des années, ils demandent, mais il n'y a rien qui est fait. C'est une école, il y a une maternelle à côté, il y a des petits de 3 ans qui ne peuvent même pas accéder à l'école. Pas de portail, les alarmes elles sont défectueuses, pas de fenêtres, pas d'isolation, il y a de l'amiante. On le voit ici, de toute façon, il y a les fenêtres avec du plastique, c'est... et il n'y a pas de moyens. Bon, pour l'instant, on continue à avoir des maîtresses, une directrice, jusqu'à quand, on ne sait pas. Ce qu'on représente à leurs yeux, c'est un réservoir à voix. Une fois élus, on ne les voit plus, et on n'a qu'à se débrouiller tout seul. Délaissé pour délaissé, on essaie de s'organiser comme on peut. Vous déposez un CV, vous êtes de la Castellane, même si vous avez toutes les compétences du monde, c'est non. Vous voulez ne serait-ce que déménager d'ici, mais parce que vous venez de la Castellane, c'est non. On a le sentiment de ne pas faire partie de la France, en fait, ici. Et c'est à nous de leur trouver des explications aux petits. Pourquoi les autres, ils ont droit et eux, non. Vous voyez, les petits, ça fait... Moi, mon fils, là, il n'a pas classe l'après-midi. Il est à la maison, il regarde la télé. Il n'a nulle part où sortir, là, dans le quartier. Rien qui est fait pour les enfants.
Et on paye, hein.
Pour des trucs comme ça, on paye des charges, on paye des impôts comme tout le monde, hein, comme tous les citoyens français en France. Hein. Je sais pas ce qu'il faut faire pour être considéré en fait.
Ok, ok, grave ou MGC, yeah, 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 banlieue dangereuse, ok, mauvais garçon, et on combat les ennemis à l'automatique. Nique la vie, c'est la famille que tu niques. Encore une mère qui vient de perdre son fils unique. À peine 16 puis j'en subis la de la blague. Tout le monde sur la joue gangsta dans le bloc. Ça baisse n'importe qui d'arrole. Dans le dangereuse, c'est rapide pour anti-flic, c'est braque les portes. Anti-cif, c'est anti-proc. C'est la musique qui nous réconforte.
Vas-y, fais le tour pour ne pas tomber dans le piège, frère. Car ça sera des menaces et des regards travers. Des mafieux te pointeront un revolver. Couche-toi à terre, tu seras Paul en plein milieu du terre.
Comment éduquer ses enfants lorsqu'ils voient des policiers postés devant la cité et des réseaux de drogue prospérer en toute tranquillité? Comment éduquer ses enfants lorsqu'ils rentrent dans une école pas chauffée ni nettoyée où des bâches en plastique font office de fenêtres? Les parents de ces quartiers doivent se battre quotidiennement et c'est ce qu'ils font. Alors ras-le-bol de s'entendre dire qu'ils profitent de l'argent des réseaux de drogue. Et parfois, lorsque certains acceptent cet argent, ce n'est pas dans la joie et la bonne humeur, non. Mais par peur et nécessité. J'ai pu suivre celle que nous nommerons Marie, qui vit dans une cité des quartiers nord et qui a accepté de témoigner, malgré le risque de représailles dans des réseaux de drogue.
lui chercher son déodorant. Parce que j'ai plus de parfum en fait. J'avais acheté une bouteille et là j'en ai plus. Donc je vais lui mettre ça.
Du déodorant ?
Ouais, que ça sent. Ça reste l'odeur à l'intérieur, comme ça il met. Vous voyez, on fait toujours comme ça, en fait.
Vous aspergez de parfum ou de déodorant les vêtements.
Voilà. Ça fait de la peine, mais bon. On ne peut pas leur donner de parfum ni rien. Même les produits d'hygiène, hein, je veux dire, ils avaient le droit, en fait, avant, aux pommettes, et maintenant, ils ont enlevé tout ça. Là, je remets ces pulls, les polaires. Hein. Il fait très froid. Très très froid à l'intérieur. Je suis seule depuis pas mal d'années.
Avec vos trois enfants ?
Trois enfants.
Ils ont quel âge, vos trois enfants ?
Alors, 8 ans, 16 et 21.
D'accord. Et donc là, c'est la chambre de celui qui a 16 ans ?
Non, celui-là qui a 21. Ben, il est incarcéré, il n'est pas là pour l'instant. Là, aujourd'hui, je vais aller le voir. C'est dur quand même pour une personne seule de faire tout ça. Bon, je travaille, mais c'est juste. Je suis agent de sécurité.
Et vous, vous avez un salaire de combien ?
1200. Je suis toujours en train de compter. Et en plus de ça, comme il est incarcéré, il faut lui envoyer, il faut lui acheter. Donc il y a les autres, il y a toutes les factures. Je prive ses frères pour pouvoir... Et des fois, je ne peux pas pour lui, donc c'est clair que voilà.
Ça fait combien de temps qu'il est là-bas ?
Là, ça va faire... 7 mois.
Il a une peine de combien ?
De 4 ans. 4 ans. Donc pour 4 ans, ça va être très long. Très très long. Voilà. On va dans la cuisine.
Vous n'êtes pas bien dans sa chambre ?
Non. Pas du tout. Mais en fait, il était trop proche des réseaux.
Des réseaux de drogue.
Voilà. Il préférait lui prendre et puis voilà. Il ne le fera jamais, balancer ses collègues. Et ça, c'est une chose, enfin, c'est leur règle.
En fait, il paye parce qu'il n'a pas voulu balancer, voilà, quoi.
Voilà. Bon, après, c'est un homme. Il assume. Mais bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, les règlements de compte, donc aller balancer, je ne voudrais pas qu'il perde la vie pour... Des fois, par rapport à tout ce qui se passe, je dis qu'il est peut-être mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est malheureux de le dire. C'est une leçon pour lui. Parce qu'il croit avoir des amis, il n'a pas du tout d'amis. C'est vrai que c'est facile de faire tous ces trucs-là. Mais bon, ils en payent les conséquences. Ça durera un an, deux ans, mais ils termineront toujours comme ça en prison. Il commençait à plus aller à l'école. Si on est trop sévère, c'est trop. Si on n'est pas assez sévère, c'est pas assez. Après, c'est la fréquentation dehors. C'est la fréquentation. On ne peut pas, on travaille ou on est à la maison, on ne peut pas rester 24-24 avec eux dehors. Donc après, l'enfant, s'il est influençable, ben il reste un... C'est ça, c'est la loi de dehors. C'est dur, on ne pourra jamais accepter que son enfant ait fait ça ou ça.
Vous ne voulez pas l'imaginer que votre fils vendait de la drogue ? Vous n'arrivez pas à le dire.
Non. Je ne supporte pas. J'aime pas ces choses-là. J'aime pas. Ils y étaient, j'ai vu tout ça, mais j'aime pas. J'aime pas. Je supporte pas. Je suis contre ces choses-là.
Mais les jeunes qui sont dans la drogue, ils sont venus vous proposer de l'aide quand votre fils a été incarcéré.
Oui. Ah oui, toujours. Jusqu'à présent. C'est comme ça.
Et donc, ils l'ont directement adressé à votre fils ou ils sont venus vous voir ?
Non, ils viennent me voir. Soit de l'argent, soit des vêtements. Après, plus, je veux pas plus.
Plus, ça serait quoi, par exemple ?
Ben, y en a qui me demandent de m'aider, voilà, par rapport à mes enfants et tout. Bon, j'ai dit non, ça va, c'est bon. Je sais pas. Les produits illicites, moi, j'en veux pas.
Ce serait de lui amener, par exemple, des produits illicites ?
Ouais. Ce serait même pas pour lui, en plus.
Comment ça, même pas pour lui ?
Pour ses collègues qui sont à l'intérieur.
Les réseaux, est-ce qu'ils n'ont pas profité justement de la fragilité de votre fils, votre fragilité, enfin...
Lui, oui, ils savent moi comment que je suis. Parce que quand j'allais le chercher ou qu'il venait ou il le prévenait que j'arrivais, je suis très dure.
Vous alliez le chercher sur les points de vente.
Pas là, points de vente. Je veux dire, C'est pas des points de vente, non. Je dirais, il était avec ses collègues. Moi, point de vente, non. Ils peuvent être à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Point de vente, on ne peut pas dire point de vente, mais voilà, il était là où il ne fallait pas. Il se trouvait là où il ne fallait pas.
Comment vous appelleriez ça, leur mari? Excusez-moi, moi je dis point de vente, mais c'est point de deal, point de...
Ouais, si vous voulez, ouais. Parce que bon, comme j'ai du mal à admettre tous ces trucs-là, donc... Ouais.
Parce que ça vous fait quel effet, en fait? Pourquoi vous n'arrivez pas à l'accepter?
Parce que j'ai vu les choses et je n'ai pas vu arriver la chose. Je n'ai pas voulu le voir. Parce qu'il était trop tranquille. Il n'a jamais eu d'argent sur lui, jamais. Je n'ai pas vu arriver la chose.
Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous?
Un regret. Un regret de ne pas avoir fait... Enfin, j'ai fait attention, mais pas sans plus. Voilà.
Ah là, il y a quelqu'un qui tape à votre porte, Marie. Vous savez qui c'est, non? Vous me faites-il de tout ranger là, d'un coup? Donc, je range tout le matériel, alors j'arrête tout. Attends. Une seconde. Un imprévu chez vous, ce qui fait qu'on est parti. Ouais. J'ai dû tout éteindre.
Ouais, ben j'ai pas trop le choix, donc c'est imprévu, j'ai pas trop...
Vous voulez pas qu'on sache que je vous interview?
Voilà.
Donc, pourquoi vous voulez pas qu'on sache que je vous interview?
Ouais, je veux pas avoir d'ennuis, de soucis, parce que ça parle très vite ici, voilà, ça parle trop vite et ils vont me considérer même comme une balance et ça c'est hors de question. Voilà, il est hors de question de ça.
Par contre,
vous voulez que je cache le matériel? Alors.
Voilà, donc là, on y va.
Il est quelle heure?
Il est 12h.
Et le parloir est à quelle heure?
À 13h50.
Et là, par exemple, vous pensez à ce que vous allez lui dire?
Non. Ce que je pense déjà, c'est de le tenir dans mes bras et voilà, lui faire des bisous. Quand il me sort ses affaires, je les sens. C'est son odeur, c'est tout. Ce qui manque.
On arrive à la prison.
Famille. Elle est là-bas, là. Elle est là, là. Voilà, là, on est arrivé. On a trouvé une place, quand même assez loin. Et il y a des parents qui croient que leurs petits sont à l'école, alors qu'ils sont dehors en train de guetter. Mais s'il y aurait plus de structure pour les jeunes, plus de choses... Les familles qui sont dans une situation précaire, parce que moi j'y étais, hein, j'y suis passée, on ne peut pas accéder à ces choses-là, on ne peut pas nous aider. Voilà, moi j'aurais bien voulu des fois inscrire mes enfants à faire ça, un sport ou ça, plusieurs activités. Et je ne pouvais pas, donc voilà, on regarde avec nos yeux. C'est comme si aller se promener dans des magasins, regarder, on ne peut pas acheter. Je l'ai subi ça, ou quand il y a le moment des fêtes et les cadeaux, on ne peut pas les acheter. Il y a les manèges, on ne peut pas faire monter, voilà, c'est beaucoup de choses. Ou rien qu'un Quick ou un McDo, c'est énorme. Il y a des mois où il n'y aura rien du tout. Mais il y a eu des années où, que je vous dis, la vérité, c'était que des pâtes. Quand on dit on va voir les assistantes sociales et tout ça, c'est du blabla. Je veux dire, elles n'aident pas énormément. Hein. Ou alors elles aident ce que vraiment, elles ont fait un cinéma. Moi, j'y allais jamais en pleurant. Hein. C'était on m'aide ou on ne m'aide pas, hein. C'est clair et net. Voilà, donc je me suis toujours battue, mais c'est difficile. Parce que moi, s'il faut voler pour mes enfants, je vole.
Ça vous est déjà arrivé pour manger?
Ce que je peux prendre. Du fromage, la viande. Je l'ai fait et j'ai pas honte. Parce que c'est pour mes enfants. Donc c'est malheureux d'en arriver là, mais... Donc... j'ai pas honte de moi. Quand les petits demandent à manger et qu'il y a rien, c'est vraiment... Voilà, et je ne l'aurais jamais fait montrer. Je m'en suis toujours sortie. Personne ne peut se mettre à la situation de ça. Se trouver sans argent, sans rien. Sans personne qui aide. Donc on longe. Il est assez grand, hein, le centre pénitentiaire. Voilà.
Les baumettes, vous n'arrivez pas à le dire aussi?
Ouais. J'arrive pas à dire le mot aussi, prison. Ça, c'est un mot que j'ai horreur. Là, je vais le voir, mais voilà, sans plus, là, c'est une demi-heure, c'est rien. C'est trop court. Vous voyez toutes les familles qui viennent et qui se garent. Voilà. C'est une course, enfin c'est quand même une bataille. C'est une bataille quand même. Et vous avez les surveillants qui rentrent.
Qui longent le mur également, de l'autre côté du trottoir.
Voilà, qui longent pour rentrer, qui prennent leur service. Voilà, et c'est quand même une épreuve de rentrer. On essaye toujours de leur faire rentrer des bonbons, à manger.
Parce que ça, normalement, c'est interdit.
C'est interdit. Interdit. Il y a un peu de soleil là.
Vous aussi, vous venez voir quelqu'un de votre famille?
Mon fils.
Mmh. Il a quel âge?
20 ans.
On peut dire pour quelle raison il est rentré en prison?
Stupéfiant.
Pour stupéfiant. Mmh. Il vendait de la drogue ou...
C'est ça. Mmh.
Et il doit rester. Il a pris une peine
trois
de
ans. Trois ans.
Bonnet, on n'arrivera jamais à rentrer avec un bonnet.
Bonnet, il ne faut pas qu'il soit doublé, sinon on pouvait lui rentrer.
Mais non, ils n'ont pas voulu. La dernière fois, ils me l'ont enlevé.
Non, mais j'ai rentré à mon fils. Hein. Il n'était pas doublé, vous êtes sûr?
Bonnet, doublé. Bon, il faut écrire, mais lui, le bonnet que j'ai apporté, il n'était pas doublé. Ils me l'ont retiré. Enfin, ça, c'est quand il... Je sais pas où il...
C'est bizarre, hein?
Ouais.
Ah bon, honnêtement. Hein. Ben, remettez-le. Hein. C'est une oubli... C'est un... Comment on dit ça, là? Un droit. J'ai cherché mes mots.
C'est quand ils veulent eux, hein.
C'est vrai qu'il est un peu bafoué, le mot droit.
Là, c'est celui-là de 13h30 qui rentre, là.
Ça, il est rentré. Maintenant, c'est 13h50.
Ils appellent, pardon. Et il faut être devant la porte, sinon, c'est fini. Faut pas le rater, quoi.
Rogier !
Ils appellent. Allez, on va à l'appel.
Moi, je vous renvoie quand je sors, parce que là, il va appeler.
Je vous laisse aller rentrer.
La valise. Là où a dit Jadel.
Ça va. Ouais, ça va.
Si.
Voilà, je rentre. Allez, attends.
Elle m'a mis.
Les enfants de la rue ont tous le même problème. Les niques t'es mort, sale pute, remplacer les je t'aime. L'enfant de la rue est attachant pour de l'argent, guette les agents. Les gadjis écartent les jambes et les gadjos raquettent les gens. L'enfant de la rue est balafré, donc il n'a pas la police. Il passe moins de temps au collège que dans les locaux de la police. L'enfant de la rue craint des gueules, en tête à tête il t'étale. Si sa mère c'est la rue, c'est que son père c'est le chétan. Il se démène et se démerde toute la semaine dans son domaine. C'est lui qui mène, il a la haine, tel un enfant des HLM. L'enfant de la rue aime sortir des disquettes aux femmes. C'est un mélange de charmeur de dames et de cracheur de flammes. Il place ses espoirs dans le rap ou le foot et grandit dans une cité à base de ghetto youth. Pour le tester, tout le monde le sait, il faut être habile. Dans son MP3, il a du séisme et du Adil.
Quand t'entends cric cric, c'est l'enfant de la rue. Quand il voit du fric fric, il t'enlèverait la vue. Il baisse pas le calbut, il vit sur le terre-terre. C'est tout la capuche, il a le regard vénère. Miné à réussir, prêt à tout faire et même sortir le usine. L'enfant de la rue est bercé par le RAP. La cité est un naufrage et lui son seul rescapé.
Ben de retour, voilà, je sors, ça s'est bien passé. Il était content, j'étais content, donc voilà, donc maintenant je rentre tranquille. On va dire que ça me soulage un peu, entre guillemets, que je l'ai vu, ça nous enlève encore, on va dire, l'attente qu'on a de qui sort. Il m'en parlait tout à l'heure, il me dit, maman, j'ai que 2 ans. Enfin, il compte, en se tenant bien et avec toutes les, peut-être, remises de peine et tout ça. Je lui dis, mais t'as pas que 2 ans. Je lui dis, ouais, mais il m'a dit, j'abrège. Ouais, mais t'abrège beaucoup, hein. Et quand il me voit bien, lui aussi, après, je le laisse bien.
Allez, on va rentrer.
Voilà, on va rentrer. Donc on y va. Après, il y a des règlements de compte aussi à l'intérieur, c'est clair. Hein. Bon, après, je vais pas aller à leur rencontre parce qu'après...
Vous avez peur. Faut pas trop critiquer, vous dites. Il faut,
ah non,
faut...
Je veux pas trop. Après, il faudrait pas s'en viser ou faire des problèmes, voilà. Sans le vouloir, il y a une pression. Hein.
exercée par qui? Par ceux qui tiennent plutôt les réseaux de drogue, parce que c'est eux qui ont plus de pouvoir?
Ouais, quand même. Même à l'intérieur. Ses amis, moi, c'est ses amis. Moi, j'en veux à ses amis. Enfin, qui dit que c'était des amis? Parce qu'il n'a jamais rien fait, ils le savent, ils le disent et tout. Et c'est lui qui mord à leur place. C'est pas juste. Mais bon, la roue, elle tourne. Se fait prendre dans la gueule 4 ans pour ses amis, non. Je trouve ça dégueulasse, quoi. Et bon, après, c'est leur loi, eux, c'est leur petite politique, là, de pas balancer, de pas...
Vous avez eu peur des représailles pour votre fils?
Non, c'est lui qui a eu peur pour moi.
Il a eu peur que le réseau, les personnes qui soient dans le réseau de drogue s'en prennent à vous.
Voilà. Ah ouais, ses frères. C'est facile, hein. C'est très facile. S'en prendre à une personne qui est seule, c'est trop facile. Voilà, après ça joue, hein.
J'ai bien vu que fallait pas trop montrer dans le quartier que je vous interviewais, que...
Je veux dire, voilà, après, je veux pas paraître pour quelqu'un qui les fait montrer, ou voilà, qui disent où ils sont, ou faire montrer que je les connais, ou voilà, je veux dire, bon, ils font ce qu'ils veulent. Après, c'est pas bien ce qu'ils font, je suis pas d'accord avec eux, mais ils font ce qu'ils veulent, hein. Je voudrais pas être mal vu, hein. Voilà, c'est pas par peur, mais voilà, ils font ce qu'ils veulent, hein. Après, c'est pas question, pas un petit peu peur, mais voilà, je voudrais pas qu'ils me pensent mal de moi, hein. Ça, c'est clair, hein. Ça, balance, déjà, j'aime pas ces trucs. J'aime pas les personnes qui balancent, donc je veux pas m'y mettre à moi, ça, hors de question. Même si je le vois faire, je dirais jamais, ouais, je l'ai vu, il était là, il habite là, jamais. Vous avez bien vu ce qui se passe, qu'il y a des règlements de compte, je ne voudrais pas en arriver là. C'est clair qu'ils peuvent devenir méchants. Hein. Et voilà. Tant qu'on les laisse tranquilles, ben, on est tranquille. Hein. Ça s'est implanté, on ne peut rien y faire. Voilà. Elle est là, la chose. Comment on va faire?
Et vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on parte, que justement les amis de votre fils qui peuvent être dans le réseau l'aident. Est-ce que ça vous a dérangé ou pas de savoir que il l'aidait financièrement quand il était en prison ou...
Ouais, mais quand il l'aide, quand je vous ai dit qu'il l'aide, c'est qu'il passe d'abord par moi, hein, ça. Ils peuvent passer par personne d'autre, je veux dire, il n'y a personne d'autre qui... C'est moi qui va le voir et voilà. Parce qu'après, je suis dans des moments aussi, moi, pas très confortables. Donc après, une aide, elle est bienvenue. Voilà. Tout en sachant que c'est pas de l'argent, bien quoi.
Ils peuvent vous donner combien, par exemple, en moyenne, par mois, pour aider votre fils?
Ben, ça dépend, ça va de 150 à 200. Hein. Après, il faut pas trop, parce que voilà. C'est une économie qui, dans un sens, qui aide. Mais voilà, c'est pas normal d'en arriver à parler comme ça. C'est vraiment pas normal. Ça me fait un effet de regret d'accepter, tout en sachant que j'aime pas cette situation. Bon, après, c'est eux qui veulent l'aider, hein. Ils me disent, moi j'ai refusé à des moments, ils m'ont dit non, il faut qu'on l'aide, et voilà. J'ai honte quand même de les prendre des fois. Donc, voilà, par contre, là, j'aurais que...
Trop de... Que je cache mon micro, vous voulez?
Ouais, ouais.
Il y a trop de monde autour de nous, on vient d'arriver en bas de chez vous.
Ouais.
Vous allez faire quoi là?
Mais non, on n'enregistre pas.
Vous avez peur qu'on vous voie?
Non, mais d'accord. Je veux pas qu'ils le sachent parce que tous ceux-là, ils font partie des... Je veux pas.
Les gens
je
qui viennent pas. De passer.
Ouais. Ouais, je veux pas.
J'éteins. Voilà. J'éteins, Marie. Tout cela font partie du réseau. Marie est une mère seule, fragile, les réseaux de drogue l'ont bien compris et les CRS n'y changeront strictement rien. Merci à Marie qui a eu le courage de témoigner et merci à Karim.
Comme un bruit qui court, vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Portugal et au Mexique. En attendant, laissez vos réactions et réécoutez. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux. Mot d'ordre, mot dièse, comme un bruit.